Nzamba.
Nzambi la samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonjour à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine, du 12 au 18 octobre, sur Radio Inzamba Agatekakawe, actualité qui a été dominée par des sujets sur les droits de l'homme. La présentation, Francine Kanyang. Le président de l'Assemblée nationale déplore le fait que les Nations unies n'aient pas mené des enquêtes sur les crimes commis en 1972. Daniel Gelandabilabe était avant-hier vendredi dans le sud du pays où la commission Vérité et Réconciliation dit être en train d'exhumer les restes des victimes des massacres de 1972 dans les communes Rumonge et Nyanzalak. Bella Gloria Kinure.
Ces restes qui ont été montrés par la commission Vérité et Réconciliation sont en nombre de 1220. C'était sur le terrain de football de Lumonge. Pierre Claver Neychalier, président de cette commission, a dit que ces restes ont été exhumés dans 147 fosses communes, dont 146 à Lumonge et une à Nyanzalake en province Makamba. Parmi ces fosses, deux contenaient beaucoup de personnes tuées, dont celles découvertes dans les enceintes de l'hôpital Lumonge et celles découvertes aux environs de l'église Pentecôte de Nyanzalake. Ces fosses communes contenaient chacune à peu près 500 personnes, précise Pierre Claver Neychalier. Il explique aussi que les fosses communes de Lumonge ont été principalement découvertes autour des églises, des marchés ou sur des terrains de football à Lumonge. Daniel Gelaz Ndavilabe, président de l'Assemblée nationale, Emmanuel Sinzo Hagela, président du Sénat, était présent dans ses activités à Lumonge. Dans ce propos, Gelaz Ndavilabe a accusé la commission d'enquête de l'ONU de ne pas se prononcer sur les massacres de 1972.
Souvent, j'entends des gens qui disent qu'il y a des commissions d'enquête pour les droits de l'homme dans le monde entier, et plus particulièrement au Burundi. Est-ce qu'on ne parlait pas de droits de l'homme en 1972? Est-ce qu'en 1972, l'ONU n'existait pas? Mais on entend dire qu'il faut donner des sanctions au Burundi pour le non-respect des droits de l'homme. Si aujourd'hui le droit de l'homme est parlé partout, comme le prétend certains patrons des pays africains et certains pays qui ne respectent pas la ligne de conduite de leurs dirigeants, est-ce que ces os étaient des os de vaches ou de chèvres? Ou bien ils croient que le Burundi existe il n'y a pas longtemps?
Vous saurez que cette commission a été mise en place le 30 septembre 2016 et avait comme but de mener des enquêtes approfondies sur les violations des droits de l'homme et atteintes à ces droits commises au Burundi depuis avril 2015.
Réaction de Charles Mokassi, l'ancien président du parti UPRONA. Pour lui, ses propos ne visent qu'à se tirer d'affaires et à se déculpabiliser. On écoute Charles Mokassi.
On a beau être habitué à avoir entendu cette personne et même d'autres du même genre, à plusieurs reprises, la honte et le déshonneur, comme on dit. Le fait qu'il y ait eu des crimes avant 2015 et que probablement ces crimes n'ont pas été condamnés, n'innocente pas les auteurs des crimes de 2015. Les ossements qu'on est en train d'examiner aujourd'hui ne sont pas une preuve de ce qu'il y a eu en 1972. Ça pourrait avoir eu lieu avant, ça pourrait avoir eu lieu après. C'est la preuve tout simplement qu'il y a eu des charniers au Burundi et que ces charniers, les coupables n'ont pas encore été poursuivis. Et même le régime en place n'est pas en train de chercher les coupables, il cherche les ossements comme si personne n'avait commis des crimes. Et ça se fait en dehors d'une initiative extrajudiciaire et je suis surpris que un membre de l'appareil législatif du Parlement puisse se comporter de cette manière. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, pourquoi est-ce qu'il est important que les tribunaux pénal s'en mêlent? Ça prouve d'abord que les tribunaux nationaux ne sont pas en train de faire leur travail correctement. Deuxièmement, c'est justement parce qu'il y a eu des crimes impunis avant 2015 du même genre qu'il est important qu'aujourd'hui les enquêtes en cours puissent se poursuivre, quelle que soit la vie de Gérald, pour éviter que quoi? Que d'autres incompétents, que d'autres idiots et méchants dans 50 ans, puissent venir s'amuser à exterminer le Burundi sous prétexte que d'autres personnes sont mortes avant et que d'autres criminels n'ont pas été poursuivis antérieurement. En d'autres termes, lorsque vous êtes incapable de dire le droit, il ne faut pas se défendre en disant « Oh, d'autres ne l'ont pas fait ». Vous restez en incapable de dire le droit, vous restez en criminel et vous restez condamnable.
Message aux élèves sur la prévention de la COVID-19. La COVID-19 n'est pas sélective. Chers élèves, cette pandémie vous concerne aussi. Appliquez partout où vous êtes les mesures barrières de prévention. Lavez-vous les mains avec du savon. Évitez les poignées de main. Il est interdit d'échanger vos masques avec des amis. Et si vous présentez un des symptômes de la maladie, avisez les parents ou les enseignants.
Ceci est un message de la radio Nzamba. Agathe.
Suite de cette rétro avec le calvaire de Fabien Wanchidianino, cet ancien député n'a pas le droit de se déplacer à l'intérieur de la prison centrale de Mimba où il était creux pour faire une petite marche. Sa vie est donc menacée, ses pieds commencent à enfler. Selon Jean-Claude Niboulou-Mossi, responsable du département juridique au 104 Burundi, le directeur de la prison centrale de Mimba devrait respecter les droits des détenus conformément au texte que le Burundi a ratifié. On l'écoute.
La maltraitance des détenus politiques continue à se faire remarquer dans la prison de Mimba. C'est maintenant le tour de Fabien Wanchidianino, un ancien député. Il a été placé en isolement dans un endroit communément appelé Kumuzingi le week-end passé. Maintenant, il lui est refusé de quitter son quartier. Il ne peut pas faire du sport. Ses jambes commencent à gonfler. Donc, il est demandé à la direction de la prison de Mimba, où il est détenu, de respecter les droits des détenus conformément à la législation tant nationale qu'internationale. Si aujourd'hui le directeur de la prison se sent à l'aise lorsqu'il y a violation de la loi dans le traitement des détenus, demain il pourra en payer le prix.
Pour rappel, Fabien Wanchidianino est poursuivi pour rébellion, dénonciation calomnieuse et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il a été arrêté le 2 octobre dernier à son domicile. Fabien Wanchidianino avait passé 6 jours au cachot du bureau spécial de recherche avant d'être transféré à la prison centrale de Mimba. Jusqu'à présent, l'ancien député n'a pas encore été présenté en juge. Des proches de Christophe Nezawaizi dénoncent l'absence de justice pour ce journaliste caméraman tué avec toute sa famille. C'était dans l'après-midi du 13 octobre 2015. La famille a été attaquée par des agents de la police en charge de la protection des institutions à son domicile, c'est au quartier 3 de la zone urbaine de Ngagala dans le nord de Bujumbura. 5 ans après, la lumière n'a pas encore été faite sur ce crime. Bertrand Gendakulio.
50 jours pour jour après les massacres de la famille Christophe Nezawaizi, les membres proches de cette famille sont toujours sous le choc. Jean-Marie Hezimana, frère de l'épouse Christophe, dit ne pas comprendre pourquoi le gouvernement ne leur rend pas justice alors que les auteurs sont connus.
C'était en plein jour. Tout le monde, Ngagara, les amis, les voisins, ils ont tous été témoins de cet assassinat macabre. Seul le gouvernement burundais aujourd'hui n'est pas parvenu à connaître ces assassins. En 2015, une commission avait été créée pour enquêter sur l'assassinat de Christophe Nezawaizi et toute sa famille. Les conclusions de ce rapport sont flous et plus que ridicules. En 2018, on a entendu que le procès sur l'assassinat de Christophe Nkezawahizi s'est tenu, que les conclusions de ce procès sont disponibles au parquet de la commune Nahangwa. Dans la famille Christophe Nkezawahizi, on ne sait pas quand, comment et où s'est tenu ce procès. On n'a jamais été informé sur ce procès. Aujourd'hui, le gouvernement du Burundi a à son sein certains parmi ces gens qui sont accusés d'avoir assassiné Christophe Nezawaizi et toute sa famille.
Jean-Marie Hezimana semble avoir perdu espoir en la justice burundaise. Il demande à la communauté internationale d'intervenir pour que les auteurs de cet assassinat soient jugés.
Il est donc très difficile de demander quoi que ce soit à ce gouvernement. Par contre, dans la famille Christophe Nezawaizi, nous demandons à la communauté internationale, aux pays de la sous-région et aux défenseurs des droits de l'homme de continuer de porter plus loin nos voix pour que la justice burundaise se réveille et fasse son travail.
Le 13 octobre 2015, la famille de Christophe Nezawahizi a été tuée avec sa femme Alice Nyuzima, leurs deux enfants de 16 et 14 ans, ainsi qu'un autre membre de la famille. Dans son rapport présenté devant le Conseil des droits de l'homme lors de sa 36e session, la commission d'enquête sur le Burundi a qualifié l'assassinat de Christophe Nezawahizi d'exécution extrajudiciaire commise dans le contexte d'une opération d'envergure menée par des agents de l'appui à la protection des institutions. À l'occasion de cette commémoration, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme condamne également le manque d'indépendance de la justice qui consacre l'impunité des crimes graves à l'instar de l'assassinat de Christophe Nezawahizi et de tous les membres de sa famille. L'organisation demande au procureur général de la République de rouvrir le dossier de l'assassinat du journaliste Christophe Nezawahizi et de faire une enquête totalement indépendante en se basant sur les résultats du rapport de la commission d'enquête sur le Burundi.
Quatre journalistes du groupe de Press Watch totalisent 363 jours sous les verrous. Christine, Agnès, Terence et Égide sont poursuivis pour tentative de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et au paiement d'une amende d'un million de francs burundais chacun. Ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bouanza. Ils se rendaient en commune Musigati pour couvrir des combats qui opposaient des rebelles aux forces de l'ordre. On en vient à ces propos récemment tenus par Pierre Mouliquier, porte-parole du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire. Il a appelé la population à être vigilante et à alerter les forces de l'ordre chaque fois qu'elles voient des étrangers, surtout ceux d'expression rwandaise. Selon Maître Jean-Vier Wiglimana, défenseur des droits de l'homme, cela risque de plonger le pays dans des crimes graves ou crimes de génocide. Bon fils Nyongere.
Jeudi de la semaine passée, 8 octobre dernier, à Gitega, la capitale politique du Burundi, Pierre Mouliquier, porte-parole du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, lance une campagne de vigilance contre toute personne d'expression rwandaise au Burundi.
Les questions relatives à la sécurité sont très primordiales dans la nation burundaise. Il faut redoubler de la vigilance. Ces personnes qui se déplacent ou qui s'installent, que ce soit dans les villes ou ailleurs, ils sont d'ailleurs facilement identifiables. Et l'expression est purement rwandaise. Si vous les voyez, avertissez directement l'administration et les forces de l'ordre. Vous savez que les facteurs de troubles viennent de l'extérieur du pays, essentiellement au Rwanda.
Il a prononcé ce discours au lendemain des arrestations des réfugiés congolais Banyamulenge qui s'étaient installés dans la ville de Gitega. Pour Maître Jean-Vier Bigirimana, ses propos sont scandaleux et lourds de conséquences.
C'est un message qui risque d'apporter des catastrophes humaines en termes de violation des droits humains. Il s'agit probablement d'un message de haine qui est véhiculé par le régime en place contre le Rwanda. Cela risque de générer un génocide commis contre la population rwandaise résidant au Burundi ou tous autres citoyens ressortissants d'autres pays qui parlent le Kinyarwanda.
Jean-Yves Bigirimana indique en outre qu'une telle personnalité ne devrait pas prononcer ce genre de propos qui devrait être réprimé par la loi si la justice burundaise était réellement indépendante.
C'est un comportement qui viole toutes les lois de la République du Burundi. C'est un comportement qui, dans les conditions normales, l'auteur de ces propos devait être appréhendé par la justice, mais nous connaissons que cette dernière est impuissante par rapport aux abus qui sont commis par l'exécutif burundais. C'est une sorte d'extension des violations qui étaient auparavant et jusqu'à aujourd'hui commises à l'endroit des opposants aux Burundi et des citoyens présumés comme tels. Mais si ça s'étend sur les nationaux rwandais ou d'autres citoyens par l'opinion rwandaise, c'est une aggravation d'une situation qui était déjà critique.
Vous saurez que ce discours a déjà eu de conséquences. Samedi dernier, un habitant de Kigoma, dans la commune Bugabira, en province Kirundo, a succombé de ses blessures après les coups et lésions volontaires des Imbonerakure de la localité qu'il accusait d'être un Rwandais de par son expression qui ressemble au Kinyarwanda.
Éducation pour terminer, le secteur de l'éducation a été relégué au second plan par le pouvoir CNDD-FDD d'après le mouvement d'action patriotique Mapurundi Buhire. Dans certaines écoles fondamentales, comme celle de Rugombo, Karurama 1 et 2 de la province Tuitoke, les écoliers suivent les cours assis à même le sol. Professeur Libera Nivashila Kandi, porte-parole de ce mouvement, fait remarquer que la scolarisation des enfants n'a jamais été une priorité depuis 15 ans du pouvoir du CNDD-FDD. La coalition en politique Sefa Arusha dénonce également un manque de volonté du régime de Gitega pour relever le niveau et la qualité du système éducatif burundais. Pour cette coalition, les autorités burundaises devraient mobiliser des fonds pour relancer ce secteur. Emmanuel Delimana, porte-parole de la coalition CFR Arusha.
Les enfants de ces autorités, ils sont dans des écoles luxueuses de Bujumbura et ils n'ont pas besoin de savoir si le petit peuple va à l'école et à quelle difficulté et qu'on sort. Sinon, c'est une histoire de longue date. Vous vous souvenez qu'on a toujours pointé du doigt, et ça fait aujourd'hui 3 ans, nous constatons qu'il y a des écoles dans le fond fin de l'intérieur du pays où les élèves sont encore assis dans la poussière. C'est une honte pour la nation. Alors, le pouvoir en place ne se soucie pas de ces paysans. Ils se soucient juste de leurs intérêts, du bien-être de leur famille. C'est la même chose que je venais de vous dire en intervenant avec rapidité pour reconstruire le marché de Kamenge. C'est parce qu'ils visent des places qu'ils vont attribuer à certains membres de leur famille. Alors, vous comprenez qu'en quelques mots, ils ne peuvent rien faire qui n'est pas dans leurs intérêts directs. Et une simple mobilisation, même de 3 commerçants, ils peuvent vraiment contribuer pour trouver des bancs pupitres pour ces élèves. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que ce n'est pas dans leur intérêt.
Pas de réaction du ministre de l'Éducation, nous avons tenté de le joindre par téléphone, mais en vain. Fin de cette rétrospective. Merci de l'avoir écouté. Bonne fin de week-end à tous.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.